Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 2 décembre 2025. On va faire pas mal d'international aujourd'hui, un petit tour en Europe de l'Est et centrale avec pas mal de mouvements contre la corruption ou pour plus de justice et de démocratie, notamment en Serbie et en Bulgarie. On va aller à Hong Kong où un incendie énorme a eu lieu ce week-end et là aussi la colère de la population monte face aux responsabilités présumées. On va aussi faire un tour en Asie du Sud-Est avec les inondations historiques dont les bilans s'accentuent encore pour l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et le Sri Lanka. Et enfin, on va parler un petit peu pâtisserie avec la tournée de Jordan Bardella pour faire la promotion de son livre. D'une plainte exercée par des journalistes contre Israël et notamment le fait de pouvoir accéder à Gaza. Et enfin, on ira faire un tour à Kourou en Guyane pour s'inquiéter aussi et pour s'intéresser au sort de la base de lancement du centre de SNES. Pardon. Allez, on démarre. Donc, c'était hier à Sofia, donc la capitale de la Bulgarie, que des dizaines de milliers de personnes ont manifesté en ce lundi contre le gouvernement, ce qui marque l'intensification d'un mouvement anticorruption dans ce pays qui est le plus pauvre de l'Union européenne. Et bien chez eux, justement, ces manifestations et ce mouvement se cristallisent autour de l'adoption du budget de 2026. Des échauffourées avec la police ont éclaté d'ailleurs à la fin de ce rassemblement, suite à ce que les manifestants ont pris pour cible le siège d'une formation politique, le DPS, qui soutient le gouvernement. Et ils ont aussi pris pour cible un bureau du parti au pouvoir, le GERB, G-E-R-B. Mercredi dernier, les manifestants étaient déjà descendus dans les rues de la capitale pour protester contre le projet de budget qui prévoit une augmentation des salaires du secteur public et des hausses d'impôts. Lors du rassemblement d'hier, donc, qui est le plus important depuis des années, les manifestants se sont rassemblés sur la grande place devant le Parlement en brandissant des pancartes et en appelant à un changement de gouvernement tout en scandant mafia ou démission, selon un journaliste de l'agence France Presse. Des manifestations similaires ont d'ailleurs eu lieu dans d'autres villes du pays, selon les médias locaux. À l'issue du rassemblement, des affrontements avec la police ont éclaté lorsque des manifestants masqués ont attaqué donc le siège du DPS en lançant des pierres et des bouteilles ainsi que des pétards sur les policiers. Du côté du gouvernement, c'est le président bulgare, Roumen Radev, qui a appelé à l'arrêt des violences en les qualifiant de provocation. Il a demandé au gouvernement de démissionner. Il n'y a qu'une manière de s'en sortir, pour lui, la démission et des élections anticipées. C'est ce qu'il a annoncé sur son réseau social Facebook. Le gouvernement devrait proposer cette semaine des amendements au projet de budget, suite à avoir promis de ne pas adopter les points contestés, comme par exemple l'augmentation des cotisations sociales. Avec l'entrée de la Bulgarie dans la zone euro, c'était le 1er janvier, ce budget sera le premier donc à être calculé en euros. Le pays figure parmi les États membres de l'Union européenne les plus corrompus avec la Hongrie et la Roumanie, selon l'indice de perception de la corruption de l'organisation Transparency International.
Maintenant, il faut nous écouter. Est-ce que là, on en a gros ?
On en a gros.
En Serbie aussi, la mobilisation continue tous les jours et ce depuis 13 mois non-stop. Hein, je vous en ai déjà parlé les mois derniers. Il y a une petite veille en tout cas médiatique qu'on peut trouver sur le courrier des Balkans et sur certaines pages d'observateurs locaux. Depuis donc 13 mois, hein, c'était la date de l'effondrement mortel de l'auvent de la gare de Novi Sad. C'était le 1er novembre 2024. La Serbie continue de se soulever contre la corruption meurtrière imputé à son président Vucic et son régime. Et les manifestations et les mobilisations se font aussi avec la demande du respect de l'état de droit. Cette exigence de justice est menée notamment principalement par les étudiants et elle a gagné tout le pays. Eh bien, le dernier épisode en date, c'était ce week-end, hein, ce dimanche, puisque des violences et des irrégularités ont été constatées lors des élections locales. Des élections locales organisées ce dimanche dans 3 villages de Serbie, à savoir Negotin, Mionica et le deuxième, je ne suis pas sûr de bien le prononcer, ça s'écrit Sekanj. Ces élections, donc ce dimanche, ont été marquées par de graves irrégularités, de multiples incidents et une explosion de violence. Parce qu'il y avait justement dans ces villages des listes dites étudiantes. Hein. Ça sera un petit peu l'équivalent chez nous des fois des listes, vous savez, municipalistes ou éco-citoyennes. En fait, des listes de citoyens qui représentent le mouvement massif hein, qui défie le pouvoir depuis plus d'1 an. Eh bien, face à ces listes, le gouvernement a mobilisé ses forces de police, mais aussi ses hommes de main et voyous qui patrouillaient dans les rues en lançant des bagarres pour faire peur aux gens, dissuader les gens d'aller voter, voire même en bourrant des urnes, volant des registres électoraux. Et ont été aussi signalés des achats, ils ont donné des pots de vin pour acheter des votes, et ont mené des reportages à la télé, la fameuse RTS, mensonger et calomniateur, cette même télé nationale qui avait d'ailleurs été, qui est régulièrement la cible des manifestants. Ceux-ci avaient pendant plusieurs mois bloqué l'accès aux journalistes, qui selon eux ne rendaient pas compte justement de manière juste du mouvement populaire. À Sekanj, donc ce village qu'on prononcera Sekanj, la police anti-émeute a repoussé dans la soirée des citoyens qui s'étaient rassemblés pacifiquement près du bâtiment municipal. Et dans le même temps, des étudiants mobilisés ont appelé un rassemblement devant la télé publique RTS à 20h. Toute la journée a été émaillée d'affrontements donc dans plusieurs de ces petites villes. À Mionica, une violente bagarre a éclaté au bureau de vote du village de Rajkovici, où des hommes masqués ont fait irruption et saccagé les locaux. 10 personnes auraient été blessées. Le député du Front Vert Gauche, le parti ZLF, Bogdan Radovanovic, a été frappé à la tête avec une barre métallique, hein, selon son parti. Et le même parti accuse justement la police de n'être pas intervenue. À Negotin, c'est un photojournaliste, un photoreporter de la chaîne N1, Gavrilo Andric, qui a lui été agressé par un groupe de bikers. Son téléphone lui a été arraché. Et des partisans du parti progressiste serbe, le SNS, auraient ensuite frappé des citoyens devant les locaux du parti. Le parquet de Mionica annonce l'ouverture d'une procédure concernant une attaque contre des observateurs d'une ONG qui s'appelle CRTA, qui a retiré ses équipes suite à ce que ses membres ont été menacés et empêchés de circuler par des hommes masqués. Vraiment des méthodes mafieuses donc pour déranger la tenue de ces élections. Le président du Parti démocratique, Zdan Milovojević, a demandé au parquet pour la criminalité organisée d'arrêter le chef de l'État, donc Aleksandar Vučić. Il accuse donc le pouvoir d'orchestrer une foire mafieuse et de manipuler le vote à travers des groupes criminels. Et bien malgré tout cela, pour les premiers résultats qui étaient donnés pour le village de Mionica, le SNS, donc le parti au pouvoir, passe de 82% des voix à 52%, ce qui fait quand même une grosse chute. Et la liste justement dite étudiante, elle arrive à un score de 46%, ce qui est bien au-delà de ce que espérait ce même mouvement justement étudiant. Donc la suite de cette lutte pour la démocratie semble en tout cas augurer de grands progrès pour ces fameux étudiants. On part à Hong Kong où, suite à l'énorme incendie qui a eu lieu la semaine dernière, la colère monte dans la population et le bilan, lui, continue de s'alourdir. Le bilan de cet incendie qui a ravagé la semaine dernière un complexe résidentiel dans Hong Kong est passé à 151 morts. C'était hier, en tout cas, ces chiffres. C'est ce qu'a annoncé un responsable de la police, qui n'exclut pas donc que ce chiffre augmente encore. Le précédent bilan était à 146 morts. Le sinistre, donc cet incendie monstrueux, s'est déclaré mercredi après-midi. Dans un ensemble de 8 tours de 31 étages de Wang Fuk Court, on est dans le district de Tai Po, donc à Hong Kong. C'est un complexe d'environ 2000 logements qui était en cours de rénovation, mais toujours habité. Les flammes ont rapidement envahi les immeubles. Ces immeubles étaient en fait enveloppés d'échafaudages en bambou, avec des filets qui protégeaient de la poussière et des chutes d'objets, ainsi que de panneaux en mousse. Et le tout pour réaliser un chantier de rénovation, certainement d'isolation de la façade. Les responsables ont annoncé lundi que 7 des 20 échantillons de filets qui ont été prélevés sur les tours détruites ne répondaient pas aux normes de sécurité incendie. Donc c'était pas des filets ignifugés. Nous pensons maintenant que la cause était probablement que les filets de sécurité ne respectaient pas les normes de résistance au feu. combinée au panneau en mousse. C'est ce qui explique la gravité de l'incendie, a déclaré le chef de la sécurité, Chris Tang, lors d'une conférence de presse, donc ce hier. L'organisme anticorruption de Hong Kong et la police, qui mènent une enquête conjointe, ont depuis arrêté un total de 14 personnes. Hein. 13 d'entre elles sont soupçonnées d'homicide involontaire. Eric Chan, le numéro 2 de la ville, a parlé de personnes indignes et fourbes en affirmant qu'elles avaient agi avec une intention délibérée. Il a de plus déclaré que les suspects avaient justement utilisé ces morceaux de filet non ignifugés afin de réduire les coûts du chantier et qu'en plus ils les avaient mis à des endroits où il était difficile de prélever un échantillon, donc loin des yeux et d'éventuellement des contrôles de sécurité. Au total, 104 corps ont été identifiés jusqu'à aujourd'hui. Certains de ces restes humains avaient d'ailleurs déjà été réduits en cendres, ce qui signifie que les corps de certains des disparus pourraient bien ne jamais être retrouvés. Des restes de corps ont aussi été trouvés à l'intérieur des appartements, dans les couloirs et les escaliers, ce qu'a expliqué la police. Un ressortissant philippin et 9 indonésiens ont été tués selon leur consulat respectif, alors que 30 indonésiens sont toujours portés disparus. Du côté des victimes, certaines familles se sont rendues à Wang Fuk Court hier pour commencer les rites funéraires traditionnels qui doivent se poursuivre aujourd'hui. Hier soir, c'était plus de 1900 ménages qui s'étaient inscrits pour une subvention d'urgence de 10 000 dollars hongkongais, ce qui fait environ 1100 euros, alors qu'environ 2400 personnes avaient eu recours à un hébergement d'urgence. L'ampleur du drame a causé un choc bien plus large que les simples victimes et leurs familles, mais dans tout le territoire, cela a suscité des appels à ce que les responsables de la tragédie rendent des comptes. Dans les médias locaux, on rapportait samedi soir qu'un étudiant de 24 ans, qui s'appelle Miles Kwan, qui avait, avec d'autres, mis en ligne une pétition pour réclamer des comptes justement sur ce drame, et bien que ce jeune avait été arrêté. La pétition en ligne avait recueilli plus de 10 000 signatures en moins d'une journée, elle a depuis été supprimée. Et à ce sujet, le chef de la sécurité du territoire, donc toujours le fameux Chris Tang, était interrogé au sujet de cet étudiant ou d'autres arrestations. Il a déclaré hier devant la presse avoir observé depuis ces derniers jours des commentaires inexacts en ligne. Certaines personnes, dit-il, aux motivations inavouées, cherchent à mettre en danger la sécurité de Hong Kong et la sécurité de la Chine et à profiter du fait que toute la société souffre pour inciter au mécontentement contre le gouvernement en pratiquant la désinformation. Par conséquent, a-t-il ajouté, nous devons prendre des mesures appropriées, y compris des mesures de police. Voilà, sans plus de précision, c'est l'ambiance à Hong Kong. Hein. Bon, je vous rappelle que Hong Kong a été rétrocédé à la Chine par le Royaume-Uni en 1997 et qu'il a donc vu le contrôle de Pékin se resserrer sur les libertés individuelles, avec notamment une fameuse loi de sécurité nationale stricte qui était passée en 2020 suite aux manifestations justement en faveur de la démocratie. On reste en Asie, mais on part plus au sud-est avec le bilan des inondations historiques qui continuent de s'alourdir pour l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et le Sri Lanka. À l'origine de ce phénomène, notamment des moussons accrues et exacerbées par la crise climatique. Les recensements des victimes ne cessent de s'alourdir, donc depuis le 26 novembre, de fortes inondations frappent l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et le Sri Lanka. Au moins un millier de personnes ont été tuées. Des centaines d'autres demeurent encore portées disparues. Dans ce que la presse internationale classe déjà parmi l'une des pires catastrophes météorologiques de ces dernières années. Au moins 176 morts pour la Thaïlande, avec un décompte qui évolue de jour en jour. Cet épisode s'érige déjà comme l'un des plus meurtriers qu'ait connu le pays suite à des inondations depuis 10 ans. Les habitants dénoncent une gestion calamiteuse de la catastrophe par les autorités. Deux responsables locaux ont d'ores et déjà été suspendus d'ailleurs pour des manquements présumés d'après l'AFP. En Indonésie aussi, on cherche des responsables. Hein. D'après le Jakarta Globe, le bureau du procureur général aurait ouvert une enquête pour déterminer le rôle de l'exploitation forestière illégale à grande échelle hein, dans les glissements de terrain qui ont fait de nombreux morts pour ce pays aux 17 000 îles. La catastrophe météo est la plus meurtrière depuis le tremblement de terre et le tsunami de 2018 hein, qui ont tué plus de 2000 personnes. C'était dans les Célèbes. Au-delà de ces activités forestières qui sont dénoncées, se pose évidemment la question aussi de l'attribution ou non des inondations à la crise climatique. Certes, ces inondations interviennent au cœur de la saison de la mousson, donc où il pleut quand même traditionnellement beaucoup, mais des tempêtes tropicales exceptionnelles ont exacerbé ce phénomène météo. Dans le détroit de Malacca, qui sépare Sumatra de la Malaisie, le cyclone Senyar a ainsi renforcé les rafales et produit des trombes d'eau plus abondantes. Pour le Sri Lanka, c'est le cyclone Ditwa qui a plongé l'état insulaire dans l'abîme en affectant la durée et l'intensité de ces tempêtes. Donc le changement climatique participe bel et bien à aggraver ces épisodes.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Et en France, alors, les phénomènes météo-climatiques extrêmes seront-ils pris en charge? Les maisons qui se fissurent à cause de la sécheresse, des logements détruits par des inondations, des dégâts causés par la grêle, de plus en plus de personnes sont touchées par les aléas climatiques. Eh bien, ces personnes ont des difficultés de plus en plus grandes, justement, à faire jouer leur assurance habitation. C'est ce que révèle UFC Que Choisir dans une étude qui a été publiée aujourd'hui. Les litiges explosent, hein, alerte cette association. Elle a reçu 5 fois plus de saisines de consommateurs sur ces sujets entre 2023 et 2024. Les assurés se plaignent à propos de l'indemnisation des sinistres liés à la sécheresse, ce qu'on appelle le fameux phénomène de retrait-gonflement des argiles qui vient fragiliser les fondations des constructions. Ça peut être aussi lié à des inondations qui ne sont pas reconnues en catastrophe naturelle. Et ils se plaignent aussi des retards d'indemnisation dus à des expertises contestées. Hein. Souvent, les assureurs font jouer la durée du temps. Et dans le même temps, eh bien justement, les franchises et les exclusions de garantie, elles, se multiplient. Par exemple, la franchise légale de 380 euros est portée maintenant à 1520 euros en cas de sécheresse. Les assureurs imposent en plus des franchises contractuelles sur les dégâts des eaux ou les tempêtes. Et ils opposent aussi de plus en plus souvent justement des clauses d'exclusion. Donc ça veut dire qu'ils ne couvrent pas le truc. Ces clauses sont souvent floues, par exemple pour défaut d'entretien ou pour des dépendances qui sont jugées non clos et couverts, ce qui va priver les assurés d'indemnisation malgré des dommages manifestes, par exemple sur des garages ou des petites pièces que vous avez fait en plus dans le jardin. Et de l'autre côté, donc ça c'est pour leurs dépenses, mais du côté des cotisations, en revanche, cela ne cesse d'augmenter. En 2024, les événements climatiques ont coûté 5 milliards d'euros aux assureurs français, ce qui a passé l'année 2024 au 9e rang des plus coûteuses dans l'histoire, depuis la création du régime CatNat, donc catastrophe naturelle, qui date de 1982. Et pire encore, dans les zones fortement exposées aux risques climatiques, certains ménages maintenant ont des difficultés à trouver un contrat abordable, voire tout simplement une offre. Ça, c'est ce que constate l'UFC Que Choisir. On se rappelle par exemple du cas des constructions en littoral, hein, qui sont menacées directement par l'érosion marine. L'UFC Que Choisir alerte donc avec son rapport sur l'émergence de territoires potentiellement inassurables où les compagnies restreignent leur offre, et ce au mépris du principe de mutualisation des risques. On peut parler aussi pour nous par exemple des risques d'incendie dans la région. En tout cas, face à cette situation, l'association UFC Que Choisir réclame entre autres une obligation pour les assureurs de proposer une assurance habitation à tous, quel que soit le lieu d'habitation, ainsi qu'un raccourcissement des délais d'indemnisation et une normalisation des expertises après sinistre.
Oh, les ras-bols, tout ça, mais c'était écœurant à la fin.
Samedi 29 novembre, ce samedi, un œuf a été lancé sur la tête de Jordan Bardella, et ce, en pleine séance de dédicace, c'était à Moissac. Derrière ce geste, on l'a appris, c'était Jean M., un retraité de 74 ans qui était déjà connu des services de police pour des faits similaires, puisqu'il s'était auparavant attaqué à Éric Zemmour, c'était en 2022, et à un bus de campagne de Marine Le Pen, toujours avec des œufs. Jean avait à l'époque justifié son geste par une volonté de défendre la cause de l'autisme qui touche son fils. « J'ai un enfant, dit-il, qui est un autiste profond. Il ne parle pas du tout, c'est très dur au quotidien. » Il s'était dit à l'époque profondément choqué par les propos d'Éric Zemmour sur les enfants handicapés. Et bien concernant donc sa dernière attaque, une plainte a été déposée au nom de Jordan Bardella et du Rassemblement National. Selon Le Parisien, la femme du suspect a été entendue dans ce cadre ce dimanche matin. L'homme, lui, a été placé en garde à vue dans un premier temps pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. Et il était jugé en comparution immédiate ce mardi 2 décembre à Montauban. Petit commentaire que j'ai vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, a priori Jordan Bardella n'est pas dépositaire d'une autorité publique, hein. C'est un homme politique, ça ne veut pas dire qu'on peut l'attaquer, mais en tout cas j'ai perdu mes mots, c'est pas grave, vous m'avez compris. Bref, le procureur a priori a fait une erreur dans la manière de qualifier les faits, voilà. En attendant, en tout cas, ce jeteur d'œufs est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec Jordan Bardella, par quelque moyen que ce soit, ou d'assister à des réunions du RN. En effet, je pense qu'il ne sera pas très bienvenu. Ce septuagénaire a l'obligation, en revanche, de se présenter à l'audience qui aura lieu donc le 9 janvier. Et pendant ce temps, la tournée littéraire du président du RN, pour promouvoir son livre, tombe à pic pour lui, hein, puisqu'on est à quelques mois des élections municipales. À noter que dans ses bains de foule, il a déjà pris de la farine, et donc maintenant à neuf. Et on peut voir, avec un petit peu d'ironie et d'humour, certaines listes de cuisine circuler sur Internet, demandant par exemple le lancement d'un challenge du 4 quarts.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
Liberté de la presse maintenant. C'est le SNJ, le Syndicat National des Journalistes, ainsi que la Fédération Internationale des Journalistes, qui ont annoncé mardi 2 décembre porter plainte pour entrave à la liberté d'exercer le journalisme. Cette plainte a été déposée à Paris contre les autorités israéliennes. Ils leur reprochent d'avoir empêché les reporters français de couvrir la guerre à Gaza. Ces faits pourraient donc, selon ces organisations, constituer aussi des crimes de guerre, pour lesquels, justement, le parquet national antiterroriste de Paris pourrait enquêter s'ils étaient commis contre des Français, ce qui est donc le cas avec cette plainte émanant de journalistes français. C'est la première plainte à ce jour à être déposée sur le fondement du délit d'entrave à la liberté d'exercer le journalisme. C'est aussi la première à inviter le ministère public à se prononcer sur l'application de l'incrimination dans un contexte international où les atteintes à la liberté de la presse sont devenues structurelles. Ça, c'est ce que rajoutent les plaignants dans cette centaine de pages que constitue leur requête. Elle a été rendue publique notamment par France Info. La plainte dénonce une entrave concertée, parfois violente, qui empêche les journalistes français de travailler dans les territoires palestiniens et qui porte atteinte à la liberté de la presse, a commenté maître Louise Eliafi, une des avocates à l'origine de cette plainte. Elle souligne aussi l'insécurité croissante qui vise les journalistes français en Cisjordanie. Ces atteintes, en violation du droit international humanitaire, relèvent également de crimes de guerre, soulignait sa consoeur donc Inès Davo. Un journaliste français qui travaille pour plusieurs rédactions francophones, mais qui a lui tenu à garder l'anonymat, a également porté plainte en son nom. Il dénonce une agression de la part des colons israéliens. C'était lors d'un reportage sur les territoires occupés en Cisjordanie. RSF, Reporters sans frontières, a de son côté décompté plus de 210 journalistes tués depuis le début des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza. Depuis le début de la guerre, les autorités israéliennes ont empêché les journalistes étrangers d'entrer de manière indépendante dans cette enclave, autorisant seulement au cas par cas une poignée de reporters à accompagner leurs troupes. En France, plusieurs plaintes ont été déposées en lien avec ce conflit. Elles visent par exemple des soldats franco-israéliens d'une unité d'élite de l'armée israélienne. Elles visent aussi l'entreprise française d'armement Eurolynx ou encore des franco-israéliens qui se rendraient complices du crime de colonisation. Suite à une plainte, le parquet national antiterroriste a aussi demandé à un juge d'instruction parisien d'enquêter pour crime de guerre, là sur le dossier de la mort de deux enfants français. C'était lors d'un bombardement israélien à Gaza en octobre 2023.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein !
Des nouvelles du monde.
On termine, on part en Guyane avec un jugement jugé incompréhensible de la part des rangs écologistes qui étaient venus assister, donc c'était ce 1er décembre, à une comparution au tribunal judiciaire de Cayenne, et c'était le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, qui était sur le banc des accusés. Il était condamné donc ce 1er décembre pour plusieurs préjudices environnementaux par le tribunal judiciaire de Cayenne, mais ce qui est incompréhensible et choquant pour les défenseurs de l'environnement, c'est qu'il n'y a eu aucune amende demandée, alors que le risque était de devoir payer jusqu'à 750 000 euros. L'agence spatiale française, elle était accusée donc par le parquet de Cayenne d'avoir porté atteinte à des espèces protégées et à leurs habitats dans le cadre des travaux qui ont été réalisés en 2022, des travaux non autorisés sur deux projets. Tout d'abord la réfection du pas de tir qui s'appelle Diamant, pour accueillir dans l'avenir un lanceur test réutilisable, hein, le projet Callisto, pour s'aligner un petit peu sur ce que fait Musk par exemple. Et les autres travaux, c'était l'aménagement d'un parc photovoltaïque, le projet PV2, pour donc faire de l'électricité. Dans ces travaux, au moins 4 espèces sensibles ont été touchées, dont une population majeure de leptodactyles ocellés. C'est une grenouille de la savane rarissime. Au mois d'octobre, le journal Reporter racontait déjà les coulisses de cette affaire et comment le CNES avait délibérément ignoré le code de l'environnement au nom d'impératifs économiques, et le tout, encore une fois, en bénéficiant du soutien des services de l'État. Hier, donc, l'agence spatiale a finalement été reconnue coupable des faits, mais cela sans trop de surprise, hein, puisqu'ils étaient jugés dans le cadre d'une CRPC, d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Donc ils ne niaient pas les faits. C'est souvent une mesure de conciliation entre les parties qui est lancée avec cette reconnaissance préalable de culpabilité, donc coupable normalement. Mais cette procédure a été reconnue par la justice et ça finit par être finalement plus favorable au SNES que ce qui avait été proposé par le parquet en 2024 dans la convention judiciaire d'intérêt public. Cette convention visait donc à l'époque à clore l'affaire à l'amiable et de manière assez discrète, hein, donc sans aller devant la justice et en médiatisant moins cette affaire. Elle comportait une amende de 10 000 euros et 20 000 euros de dommages et intérêts. Cette proposition avait été invalidée par le tribunal de Cayenne au mois de juillet dernier, 2024, pardon, en raison justement de l'inadéquation avec la gravité des faits reprochés. Hein. Les sommes de 10 000 et 20 000 euros semblaient un peu légères, donc ils ont annulé ça. Et ensuite, eh bien, la CRPC a fait suivre à cette petit arrangement retoqué. Maintenant, c'est homologué. Aucun recours n'est plus possible pour les parties civiles. Et vous l'avez compris, le CNES s'en sort sans amende. Une faiblesse donc pour cette peine prononcée qui a fait bondir les représentants des trois associations environnementales qui étaient parties civiles. Le CNES risquait plus de 750 000 euros d'amende. Le préjudice environnemental a été estimé à presque 10 millions d'euros. Le CNES sera finalement simplement tenu à remettre en état le site Diamant dans 3 ans. Il devra payer une amende de 50 000 euros s'il ne fait pas les travaux. Les actions concrètes qui seront réalisées d'ailleurs dans ce cadre n'ont pas été précisées lors du délibéré et posent plusieurs questions, puisque maintenant le site est complètement artificialisé, hein, j'imagine que c'est une grosse dalle de béton, et qu'il est utilisé depuis plusieurs... il va être utilisé pendant plusieurs années pour lancer des fusées, donc a priori ils vont pas tout casser et remettre de la jungle à la place. D'ailleurs sur ce point, l'avocat du CNES n'a pas su donner le détail des travaux, et sur le fond de l'affaire, il a été interrogé donc sur le fond de l'affaire, il a répondu que le Centre National des Études Spatiales n'était pas au courant de la présence d'espèces protégées quand il a lancé ses travaux. Ce alors que, justement, de nombreux articles avaient été publiés, notamment par le journal Reporter et ses partenaires. Pour la deuxième infraction, par rapport à ce parc photovoltaïque, le CNES pourra se contenter de mettre en œuvre des mesures compensatoires qui sont déjà prévues par l'autorisation préfectorale à la base, ce donc à quoi il était déjà tenu avant sa condamnation. Ça ne change rien, il suffit qu'il aille éventuellement creuser une mare d'un côté ou acheter une parcelle et dire que c'est bon, ça répare les torts. On est dans une sorte de non-sens où on se retrouve avec une absence de peine d'amende pour des infractions intentionnelles avec des dommages gravissimes sur des habitats et des espèces menacées. La peine ne couvre même pas le coût de la procédure judiciaire, réagit le coordinateur de Guyane Nature Environnement. C'est une des trois associations qui était partie civile. Elle plaidait notamment pour une requalification des faits en délit d'écocide et un renvoi en correctionnel. La question des dommages et intérêts qui étaient exigés par les parties civiles, hein, eux, ils réclamaient près de 100 000 euros. Elle a été renvoyée au 9 juin 2026 dans une audience qui se tiendra donc à part. Vous voyez que la forêt tropicale, elle est importante, mais ça dépend un petit peu de qui est à la barre et du contexte qu'il y a derrière.
Ah ouais, carrément.
Qu'est-ce qu'il fout en milieu rural aussi ?
Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous jeudi pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, tenez-vous au chaud. Le temps a l'air de tourner presque à la neige cet après-midi et dans la soirée. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez La Tête dans l'étagère prévue à 17h. Juste après ces nouvelles du monde, La Grand Combe, des pastilles sonores qui nous viennent des quartiers d'Alès et de La Grand Combe. Et ce soir, c'est Reggae Soundbox à la rediffusion. Sur les ondes, avec, ils avaient un invité, je crois, au platine, c'était jeudi dernier. Voilà, vous savez tout. À bientôt.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.